vers la petite échelle au fond de la pièce, grimpa les barreaux un à un et se faufila dans le grenier où régnait paisiblement poussière et toile d'araignée. L'instant d'après, elle entendit un grand chahut. Puis la porte de la maison s'ouvrit brutalement. Alice rampa sur le sol et trouva une ouverture entre deux lattes du plancher, par laquelle elle put observer la scène qui se déroulait en bas. Deux gardes avaient immobilisé Luc et le tenaient fermement sur le pas de la porte. Et le prévôt Ardignac, car c'était bien lui, venait d'entrer dans la maison des bergers où, menaçant, il faisait face à Marie et sa mère.
« Si vous ne voulez pas me laisser entrer, c'est que vous avez quelque chose à cacher, » grogna le prévôt en fouillant la pièce du regard.
« Eh, diablas !»
s'exclama la vieille femme en s'approchant de l'intrus.
« Qui sait à quel qui rentre dans ma casse comme une trabuque ?»«
C'est le prévôt de Béziers, » répliqua l'homme d'un air agressif. « Où est-elle, la gamine ?»«
Eh, quoi, l'eau gamine ?»
Soudain, le regard de M. Ardignac s'immobilisa, et Alice, en suivant sa direction, vit que l'homme avait repéré sa couche, et à côté d'elle son petit sac.
« Elle est ici !»
cria le prévôt dans un élan de fureur, et il poussa violemment la vieille femme qui s'écroula sur le sol. Marie, les yeux rouges de colère, se précipita auprès de sa mère pendant que dehors Luc se débattait en vain avec ses deux tortionnaires. Alice sentit s'affoler les battements de son cœur. Elle jeta un coup d'œil alentour. De l'autre côté du grenier, elle aperçut une ouverture dans le toit.
« Là-haut !»
s'écria Ardignac. Puis, presque aussitôt,
« Cette peste a dû se réfugier dans le grenier, venez avec moi !»
La jeune fille n'attendit pas un instant de plus. Sans se soucier du bruit qu'elle risquait de faire, elle traversa les combles en courant et se hissa dans la brèche jusque sur le toit. Les bras tendus à l'horizontale pour ne pas perdre l'équilibre, elle descendit le long du faîtage en direction du nord-ouest. Le mistral lui fouettait le visage et ses pieds glissaient sur les tuiles, si bien qu'elle manqua tomber plusieurs fois. Quand elle arriva au bout de la maison, elle sauta sur la suivante, puis sur la suivante encore, jusqu'à ce qu'elle fût de l'autre côté du village, au-dessus de la route de San Chinan. Là, elle se laissa tomber sur une botte de foin, se releva et courut aussi vite qu'elle put en direction de la garrigue. Mais avant que d'avoir traversé la route, du coin de l'œil, elle aperçut la petite bâtisse en pierre sèche où se nichait l'atelier de Luc. Elle hésita un instant, puis obliqua dans cette direction, ouvrit la porte, prit le psanthère et la trousse à outils que le berger lui avait offerte. Les glissa dans un sac de toile qu'elle jeta sur son épaule et enfin, elle se précipita au dehors. Au loin, entre les maisons derrière elle, elle entendit résonner les cris des gardes et du prévôt qui approchaient rapidement. Elle se retourna une dernière fois vers Cazot, et l'évidence de ce qu'il lui restait à faire fit monter à ses paupières de lourdes larmes. Alors, la jeune Alice s'en alla vers les collines à l'ouest du hameau, car c'était bien vers l'ouest que se trouvait Bayonne, où elle était décidée à se rendre à présent. Chapitre 89. Quand au petit matin Guillaume Humbert trouva que la pièce où il avait enfermé Robin Messonnier était vide et que la serrure n'avait pas été forcée, il fut saisi d'une telle stupeur qu'il dut se tenir à la porte pour ne pas s'effondrer. Bien que l'homme eût passé la plus grande partie de sa vie à confondre sorcières et hérétiques, et l'on sait de quelle manière, en réalité, et nous convenons que c'est un comble à la glaçante ironie, il ne croyait point lui-même en la sorcellerie. Pourtant, la disparition subite de Robin dans une pièce qui n'avait nulle fenêtre et dont la seule porte était solidement verrouillée, ne trouvait point à ses yeux quelque explication rationnelle. Et alors il se mit à trembler et à perdre beaucoup de cette superbe dont d'ordinaire il ne se départait jamais. Quand les geôliers, alertés par ses cris de rage, arrivèrent à leur tour dans la pièce, il leur adressa des regards brûlants d'une fureur accusatrice et leur ordonna de rassembler leurs affaires ex abrupto. Et alors il jura devant Dieu que tant que ce diabolique apothicaire ne serait point écartelé vivant sous ses yeux, il n'aurait ni repos ni cesse qu'il ne fût retrouvé, car à présent, le grand inquisiteur de France, humilié, en faisait une affaire personnelle. Chapitre 90. La similitude que nous faisions remarquer plus tôt entre le sort d'Alice et celui d'Andreas et Robin se prolongea encore d'une troublante manière pendant les 6 jours qui suivirent, car l'une et l'autre partie, suivies de près par leurs prédateurs respectifs,